La grâce et la paix nous sont données par Dieu notre Père, en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Frère. Nous nous présentons ensemble devant Dieu avec le premier chant que vous trouverez donc dans le petit livret liturgique qui est au début du psautier français, « Bénissons Dieu, le seul Seigneur ». Éternel, c'est toi qui es Dieu, et il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Nous sommes le peuple dont tu es le berger, nous sommes la famille à qui tu as donné la vie. À toi soit la gloire en Jésus-Christ. Alors je vous propose de poursuivre dans la louange avec le psaume 107, donc dans notre psautier, les strophes 1, 2 et 4 de ce psaume qui nous invite à louer Dieu pour sa grâce. Alors vous pouvez prendre place et après avoir ainsi accueilli la présence de Dieu, commencer par cela, à tout Seigneur, tout honneur, c'est très chaleureusement que je voudrais souhaiter la bienvenue à chacune et chacun d'entre vous, les rescapés de ce bel été voilà, qui nous ravit. Bienvenue donc pour ce temps de culte. Oui, c'est si précieux d'être ici ensemble pour chercher en communion à rendre un culte à Dieu. Et puis, grand bienvenue donc à Sacha Cupage, qui a demandé à être baptisé ce matin. Et puis, bienvenue donc à sa fiancée et puis à ses amis. C'est pour nous vraiment un honneur et une joie de vous avoir. Alors nous poursuivons en écoutant ce que Dieu nous propose de vivre selon le témoignage de Moïse. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a libéré de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image pour te prosterner devant elle, car je suis l'Éternel ton Dieu. Tu ne prendras pas en vain le nom de l'Éternel ton Dieu. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne trahiras pas ceux qui t'aiment. Tu ne voleras pas. Tu ne diras pas de mensonge contre ton prochain. Et tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. » Et voici comment Jésus-Christ a résumé toute cette loi dans cette seule parole. « Écoute, le Seigneur ton Dieu, c'est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Et Jésus ajoute « Tu l'aimeras avec intelligence. » C'est là le premier et le grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, nous dit Jésus-Christ. » Et aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. Face à cet idéal infini de l'amour, nous pouvons nous reconnaître comme ayant une marge de progression. Et je vous propose donc de suivre du cœur cette prière de David. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché et ma faute est toujours devant moi. Contre toi j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Mais tu veux au fond de moi ta fidélité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint, mais donne-moi la joie d'être sauvé. Que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui directement, au plus profond de leur être, la certitude de leur pardon et la grâce d'une vie renouvelée. En effet, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque ait foi par lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors oui, vraiment, le Fils de l'homme est ainsi venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous chantons à Dieu notre reconnaissance. Alors vous pouvez prendre place, sauf peut-être Sacha que j'invite à me rejoindre donc au milieu. Alors grand bienvenue à vous. Ce baptême, c'est le signe de l'amour que Dieu a pour vous en particulier. Sacha, avant que vous le cherchiez, Dieu était déjà près de vous. Il était déjà plein d'amour, de respect pour cette personne que vous êtes. Et rien ne vous priera de cet amour, aucune épreuve, aucune chose présente ni à venir. Alors vous vous êtes intéressé à la fois, peut-être par amour pour grâce, mais maintenant c'est plus seulement pour cela finalement. C'était à la base peut-être un respect. Maintenant, voilà, vous avez quelque chose qui vous habite, quelque chose qui vous a vraiment, je pense, transformé aussi. Alors rien ne vous y obligeait, ni votre copine qui n'est pas comme ça, de vous dire « faut absolument que tu te convertisses », ni votre milieu athée, ni non plus le fait de se rassurer parce que vous êtes d'une personnalité, je veux dire, heureuse. C'est un don personnel. Et donc, ce n'est pas pour s'agripper aux branches que tout d'un coup, vous vous êtes dit « je dois absolument croire en Dieu ». Non, c'est une ouverture d'intelligence, de sincérité, de foi que vous mettez dans cette démarche. Alors vraiment, ce chemin parcouru nous remplit de joie, nous porte à la reconnaissance. Mais ce chemin est encore largement ouvert. Il y a tant de choses à vivre, à découvrir dans ce cheminement avec Dieu, mais aussi avec des frères et sœurs qui cherchent Dieu. Alors Seigneur, selon ta promesse, envoie vraiment ton esprit de lumière et de vie sur Sacha et que jour après jour, il soit ainsi porté de découverte en nouvelle découverte et que sa personnalité puisse s'épanouir de la plus belle des façons. Par ton amour et ta paix. Alors Sacha, ce baptême, il viendra vous dire et vous redire chaque jour que vous êtes accompagné, voilà, sur la route qui est la vôtre. Et ce baptême vous appellera à demeurer dans cette communion confiante avec Dieu, dans ce cheminement par sa grâce et par sa présence. Et puis à nous tous, frères et sœurs, ce baptême nous rappelle à nous aussi, voilà, cette attitude de Dieu à notre égard. Et c'est pourquoi, dans la joie et dans la reconnaissance, eh bien, nous nous associons à cette démarche de Sacha. Sacha, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, Sacha, que Dieu vous bénisse et vous accompagne sur la route qui est la vôtre, qu'il l'illumine de lumière, de paix, d'intelligence, de force et d'amour. Alors vous avez vu, Sacha n'a pas eu son mot à dire avant d'être baptisé, et c'est bien cela. Enfin, on ne l'a quand même pas forcé avec une grande chaîne à venir au milieu. Mais symboliquement, ça veut dire que cet amour de Dieu qui est signifié par le baptême, il n'est soumis à aucune condition. Mais cet amour de Dieu, il appelle à une réponse personnelle, celle de la foi, celle de l'intelligence aussi. Et donc Sacha a préparé une confession de foi qui dit sa pensée, mais aussi sa confiance en Dieu. Et ce sera pour aujourd'hui, eh bien, notre confession de foi pour notre Église. Et donc je vous propose de vous lever pour vous associer du cœur à cette confession de foi. Oui, vaut mieux.
C'est bon, ça marche ? Je crois en l'Esprit Saint, ce don désintéressé qui nous fait vivre et grandir, qui nous donne la foi, l'espérance et l'amour. Je crois en ce souffle qui m'apporte joie et réflexion au quotidien. Je crois en cet été invincible qui résonne en moi chaque jour. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur, source de l'éternelle liberté. Amen.
Et donc, merci. Gloire à Dieu dans l'Église et sur la terre et d'éternité en éternité. Amen. Vous pouvez reprendre place pour le quelques mots que va nous dire Sacha, pour expliquer peut-être aussi un petit peu voilà, sa démarche, lui donner un petit peu plus peut-être de personnalité. Et donc, voilà, vous avez choisi quelques mots donc, de la lettre de Paul aux Romains, qui, comme j'allais dire, bien des théologiens, a été importante peut-être dans votre cheminement.
J'ai choisi le verset 2 et 3 qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Le choix de ce passage est pour moi l'illustration de ma foi, c'est-à-dire l'éternel renouvellement de soi par l'intelligence, mais également par la modestie de notre condition. Aujourd'hui, en ces lieux, je me sens profondément chrétien, mais j'aimerais préciser également, je me sens profondément protestant, car je pense que cela a son importance. J'ai trouvé dans le protestantisme un moyen d'exercer ma foi, un socle théologique profondément brillant, véhiculant une pratique intelligente de la foi, demandant à chaque croyant de se réformer chaque jour. Et je sais combien Laurent Gagnebin est important dans cette église. Et Laurent Gagnebin parle d'une foi insoumise pour décrire la foi protestante. Je trouve cette expression parfaitement lumineuse par sa vérité. Pour moi, être chrétien, c'est avant tout être libre. Je suis désolé, je suis très ému. Et donc j'aimerais finir cette présentation un peu en demi-teinte à cause de mon tremblement par ces quelques mots de Kierkegaard, car à quoi bon vouloir improviser quand d'autres ont fait mieux que soi. Je me suis rendu compte que j'avais de moins en moins de choses à dire jusqu'au moment où finalement je me suis tu et dans le silence j'ai découvert la voix de Dieu. Amen.
Un grand merci Sacha, franchement merci pour ces paroles. Alors vous avez reçu donc le signe de la grâce de Dieu par le baptême, vous avez confirmé cette grâce par votre foi et cela fait finalement alliance avec Dieu, cette grâce première, fondatrice et puis cette foi. Voilà que vraiment le Saint-Esprit vous accompagne, vous illumine et vous donne voilà, des dons extraordinaires dans cette existence. Merci à vous, merci à vos amis. Après la réflexion que je vous ai proposée la semaine dernière sur la violence, Je voulais vous lire pour ce matin, pour ce joli dimanche de printemps, un psaume tout doux, calme et serein, et d'une profondeur, à mon avis, extraordinaire. Le plus court de ces psaumes de pure confiance en Dieu que les croyants aiment tant depuis des milliers d'années, les psaumes 23, 121 et 131, peut-être, que je vais vous lire ce matin. Et en même temps, ce psaume, voilà, plein d'humilité, plein d'intelligence et d'une relation intime avec Dieu, me semblait bien aller, voilà, avec ce que Sacha exprime, Sacha qui vient de recevoir donc le baptême. Alors voilà ce psaume, psaume des montées de David. Éternel, loin de moi d'avoir un cœur arrogant, loin de moi d'avoir des yeux hautains, loin de moi de cheminer dans des choses trop grandes et trop merveilleuses pour moi. Au contraire, calme et élevé en mon être, je suis comme un bébé sevré sur ma mère. Mon être est sur moi comme un bébé sevré. Israël attend vers l'Éternel dès maintenant et pour toujours. Alors je vous propose de chanter maintenant ce psaume puisque c'est sur une mélodie que nous connaissons. Donc c'est le psaume 131 dans notre psautier français. L'orgueil n'abuse plus mon cœur. Les trois strophes de ce psaume 131. On a un peu révisé alors ce psaume 131 qui est aussi le psaume, la mélodie du psaume 100. Nous prions Dieu. Seigneur, nous voici devant toi pour recevoir tout ce que tu veux nous donner aujourd'hui, personnellement. Alors permets que dans ce témoignage que nous avons entendu dans nos Écritures, nous puissions chacune et chacun découvrir quelque chose qui vient de toi. Alors tu nous as dit que tu nous donnerais ton Esprit Saint, c'est notre espérance, afin qu'à l'occasion de ce culte, nous recevions une nourriture pour notre foi, une lumière pour notre espérance et un amour vrai qui anime notre cœur, nos paroles et nos actes. psaume des montées de David. Alors ces quelques mots d'introduction de ce psaume nous donnent déjà deux points essentiels qui forment le moteur même de la démarche proposée par le psalmiste. La méditation est source d'élévation, premier point. Alors nous avons ici un chant de confiance en Dieu. D'autres psaumes sont une lamentation, une repentance, une colère même. C'est souvent aussi une louange joyeuse, mais en tout cas, cette sincérité finalement de la méditation placée devant Dieu est en elle-même, par cette sincérité, une incroyable source d'élévation. C'est le premier point. Et puis le « de David » n'est pas simplement une anecdote rendant hommage à l'auteur de cette prière. Ces deux mots, « lo David », littéralement signifient « du bien-aimé » puisque c'est le nom même, c'est le sens du nom de David. Et donc à la base même de cette démarche, il y a ce sentiment d'être le bien-aimé de Dieu. Et c'est cela qui rend possible cette méditation sincère, confiante, pour oser dire à Dieu ce que l'on espère, espérer peut-être être entendu. Cela motive cet élan et cela l'autorise. Il n'y a donc plus aucune crainte à ne pas savoir prier, ni même à dire ces quatre vérités à Dieu. Cela crée une amitié finalement avec Dieu qui donne au psalmiste l'envie de l'appeler, d'appeler Dieu par son petit nom, Yahvé, l'Éternel. Ce nom que les croyants donnent dans la Bible à Dieu, au sujet de leur prière finalement, quand ils sentent ou quand ils espèrent cette tendresse qui nous anime. Éternel, loin de moi d'avoir un cœur arrogant, loin de moi d'avoir des yeux hautains, loin de moi de cheminer dans des choses trop grandes ou trop merveilleuses pour moi. Alors traditionnellement, et nous l'avons encore entendu dans le psaume que nous avons chanté, l'Église a vu dans ces lignes un appel à l'humilité, enfin à l'humilité pour les croyants, peut-être pas à l'humilité pour l'Église. Mais cet appel à l'humilité, ça me semble un peu court finalement, si vous voulez. Pour ouvrir cette recherche d'élévation tournée vers Dieu, le psalmiste se met simplement en garde lui-même de ne pas se prendre pour Dieu. Alors c'est sage. Tant de théologiens, tant d'églises, tant de croyants et pas mal de philosophes aussi ont une légère tendance à confondre leur position avec la vérité ultime. Cela les rend dangereux pour leur entourage et puis cela stérilise leur propre recherche dans la certitude d'avoir atteint la vérité, et puis ça stérilise aussi tout effort de Dieu pour leur faire entendre autre chose. Alors ne pas se prendre pour Dieu, ce n'est pas de l'humilité, c'est tout juste normal. C'est comme de ne pas se prendre pour Napoléon, c'est tout juste ne pas être fou, en fait. Pour le reste, cette introduction n'est pas du tout humble, elle est ambitieuse, au contraire. Elle appelle à pousser jusqu'à nos propres limites, à les explorer, et c'est l'inverse de l'humilité, finalement. C'est le sentiment d'être digne, d'avoir un cœur, d'avoir des yeux, d'être digne d'explorer. Et puisqu'il s'agit ici de s'élever vers Dieu sans se prendre pour Dieu, nous avons déjà, dans ces quelques mots, l'esquisse d'une théologie que nous propose le psalmiste. Dieu est de l'ordre d'un cœur, d'un regard et d'un cheminement. Et cette genèse qu'il cherche à nous apporter, que Dieu cherche à nous apporter, ça consiste à élever notre propre cœur, notre regard et notre cheminement. Donc ce qui est visé par Dieu et par la prière, ici, c'est une qualité d'être, c'est une genèse de notre être. C'est la capacité à choisir par soi-même, qu'évoque le cœur dans la Bible, parce que pour nous c'est le lieu des sentiments, mais dans la Bible c'est plutôt le lieu du choix. C'est une capacité à voir clair et à avoir une visée qu'évoquent les yeux, et c'est une capacité à évoluer et à faire avancer les choses qu'évoque le cheminement. Alors voilà donc quel Dieu nous avons à découvrir, et voilà trois capacités, trois qualités d'être que nous pouvons travailler, que nous pouvons développer, que nous pouvons élever par la méditation et par l'ouverture à ce Dieu qui est source de la genèse du monde. Voilà donc trois cavaliers peut-être que nous pouvons chevaucher pour avancer dans le monde, pour explorer notre univers, mais en même temps trois chevaux que nous pouvons apprendre à tenir en bride, peut-être. Notre cœur, notre regard et notre exploration. Mais en même temps, cette recherche commence par éternel. Et donc, il s'agit donc bien d'une prière, pas simplement d'une réflexion philosophique ou théologique sur Dieu et sur la vie humaine. Ce psaume nous invite donc à la fois à réfléchir et à prier. Et c'est ce qui distingue finalement l'idée de Dieu chez Aristote ou chez Platon, par exemple, du Dieu dont il est question ici. Dans tous les cas, l'intelligence est utilisée pour chercher et pour parler d'une idée du bien ultime, du bon ultime. Alors il y a une recherche d'élévation dans notre capacité à bien choisir, à avoir une visée et puis à cheminer. Dans tous les cas, ce bien ultime qu'est Dieu est reconnu comme étant au-dessus de nous et de notre monde sensible. Mais ici, à travers ces simples mots éternels qui introduisent donc cette méditation philosophique, théologique, c'est autre chose que la simple réflexion qui est en jeu. C'est une relation, c'est une expérimentation de Dieu et de sa façon d'être. C'est ainsi que la théologie biblique est plutôt à rapprocher d'une science expérimentale. Je crois que c'est particulièrement le cas de la théologie des psaumes et celle du Christ. D'autres textes sont peut-être un peu moins de cette veine-là dans la Bible. Fondamentalement, cette démarche théologique et philosophique est donc basée sur une expérience personnelle de Dieu qui permet de perfectionner sa pensée, de la prolonger, d'aller au-delà, et puis peut-être aussi de corriger notre intuition, ce que nous pouvons prendre pour une expérience de Dieu par l'expérience des autres et confronter à l'intelligence. Et donc l'intelligence a encore toute sa place pour essayer de penser cette expérience et d'en débattre. Mais cette démarche de l'intelligence a ses limites, comme le dit le psaume. On ne trouvera jamais l'équation de Dieu. La réalité, elle dépassera toujours la théorie et seule l'expérience de Dieu permet d'aller au-delà finalement de nos limites, au-delà de ce monde sensible, permet d'accéder à cette réalité. Alors des philosophes, et pas des moindres comme Henri Bergson ou Paul Tillich, qui sont donc dans une certaine mesure théologiens aussi, comptent sur la mystique pour aborder la question même de l'existence de Dieu, et pour chercher sa nature, de façon donc expérimentale, par l'expérience mystique. Alors depuis l'aube des temps et dans toutes les générations, nous savons qu'il existe ou qu'il peut exister des points de contact avec un au-delà des limites de notre monde, de notre sensibilité. Alors ce psaume nous propose une réflexion sur la nature de Dieu, mais il ne termine pas là-dessus, sur ses acquis. Mais il se termine sur une ouverture, sur une invitation à expérimenter soi-même Dieu. Et cette invitation, elle s'adresse à tout le peuple, collectivement et individuellement à chacun. Israël, attends-toi à l'Éternel dès maintenant et pour toujours. Et donc c'est une théologie et une philosophie de la vie qui sont à la fois élaborées par l'intelligence, consciente de ses limites et fondées sur l'expérience mystique. Et ce mix finalement, cette équipe, change tout. Une théorie sur Dieu et sur la sagesse sont utiles, mais de cette seule connaissance ne peut sortir, je pense, la foi qui transporte les montagnes dont parle Jésus. Il est bon de savoir que Dieu ou que le bien ultime, par exemple, comme ce que propose ici le psalmiste, c'est pour nous une capacité à bien décider, c'est une visée, c'est un cheminement. C'est ce que suggère la petite partie théologique de ce court psaume. Mais il la replace, cette partie théologique et philosophique, il la replace dans le contexte d'une expérience de Dieu première, celle de s'être senti être aimé, celle de la possibilité même d'interpeller Dieu, de l'appeler éternel, même si on ne sent pas encore sa présence à l'instant même où commence cette prière. Il prend ensuite bien soin de dire que cette connaissance, aussi juste et aussi utile soit-elle, elle a ses limites et que notre intelligence, qui par définition est limitée, elle est limitée par ce que nous pouvons concevoir. Et donc, pour aller au-delà, finalement, de nos limites, il faut s'ouvrir à autre chose. Et le psaume, il témoigne donc ensuite de quelque chose d'un autre ordre, et qui lui seul lui procure, en fait, le calme et vraiment l'élévation, c'est-à-dire l'élévation au-dessus de là où il en est aujourd'hui. C'est le fait de se sentir avec Dieu comme un enfant sevré sur sa mère. Alors Bergson, il avance que dans l'expérience des mystiques, des religions les plus diverses du monde, on retrouve souvent quelque chose comme un amour profond pour parler de leur expérience de Dieu. L'expérience n'est pas simplement la connaissance que Dieu est amour et objet d'amour, nous dit-il. Et de ce double amour, le mystique n'aura jamais fini de parler, ajoute-t-il, car sa description de ce double amour est toujours, chez le mystique, interminable, parce que la chose à décrire est inexprimable, et donc dans un certain sens, le mystique veut remplacer cet inexprimable par une quantité, ce qui est parfois maladroit sans doute, mais néanmoins, le mystique, il a envie, il est motivé et il cherche à exprimer finalement ce qu'il a pu recevoir. Le mystique donc se fait dans un certain sens théologien, dans sa motivation à exprimer ce qu'il a touché. Alors pour exprimer cela, il est bien obligé d'utiliser les mots de notre monde sensible, car nous n'en avons pas d'autres finalement. Des mots qui sont en deçà de la limite de notre monde, alors même qu'il a été en contact avec Dieu qui est au-delà de ses limites. Et donc la parole du mystique devient une sorte d'enseignement à son tour. Mais peut-être que le mystique, par rapport au simple philosophe, j'allais dire, au philosophe non mystique, le mystique, il aura une flamme que n'a pas le pur théoricien. Pourtant, le pur théoricien pourra parler lui aussi d'amour et de la valeur qu'il y a à vivre en aimant et en étant aimé. Mais ce simple enseignement, certainement utile et véridique, ne fait pas une foi à transporter les montagnes. Ou alors, c'est que le professeur de morale ou l'élève qui en reçoit la leçon auraient eux-mêmes, peut-être de manière diffuse, peut-être sans le savoir, vécu quelque chose de ce contact avec la source ultime de l'évolution et de la vie qu'est Dieu. C'est pourquoi ce psaume présente bien, je trouve, la chose, la démarche dans sa complexité. Il donne un enseignement théorique sur Dieu et sur la vie humaine, et puis il essaye ensuite d'en témoigner comme il peut de ce que lui a apporté cette expérience mystique passée. Et puis il a l'intelligence aussi d'inviter son élève, j'allais dire, d'inviter le lecteur à tendre lui-même, au moins par l'espérance, de vivre quelque chose de ce contact et de s'y préparer, parce que seul là, dans ce contact, le lecteur pourra atteindre la vérité même, non pas dans l'écoute de l'enseignement. Le problème de la mystique, c'est que malgré les images utilisées pour en parler, l'expérience mystique ne peut pas se partager finalement, bien sûr. C'est l'avantage de la théologie. La théologie et la philosophie s'adressent à l'intelligence, et donc comme tout enseignement, cette connaissance est donc accessible à quiconque veut s'en donner un peu la peine, quitte à ce que ce soit à un certain degré, je pense, de schématisation, à plus ou moins grand trait. La personne, alors, elle peut entendre ce que dit l'enseignement, y adhérer plus ou moins, et elle peut en tout cas comprendre de quoi il est question et en débattre. Alors cela peut donner une base, mais c'est intéressant, c'est positif, à condition d'en savoir les limites, que ce n'est pas Dieu que l'on tient quand on a quelques-unes de ces connaissances proposées par Dieu, par le théologien, le philosophe ou même par la Bible. La théologie est utile comme peut l'être une revue de vulgarisation, finalement. Comme Science et Vie Junior peut instruire et motiver un enfant, peut-être, à devenir ensuite un chercheur en laboratoire. La Bible est donc un livre où des mystiques essayent de faire comme cela, un travail de vulgarisation de la façon la plus honnête et motivante possible pour les acteurs. Mais en conclusion, à chaque page de la Bible, il y a cet appel Attends-toi vers l'Éternel dès maintenant et pour toujours. Se renvoie à l'expérience personnelle. Cette pédagogie biblique nous y prépare, non pas en nous étourdissant, en nous faisant ainsi entrer dans une transe, peut-être, qui fait suspendre ou abandonner l'intelligence, comme si c'était un acte de foi de renoncer à une bénédiction de Dieu qu'est l'intelligence, mais au contraire en nous menant à la limite élevée de notre intelligence et en sentir que c'est une limite, effectivement, et avoir comme une perception ou une intuition là de quelque chose de bien plus grand qui soulève tout cela, qui le structure, qui l'anime et qui nous aime, en fait. La théologie est ainsi une science expérimentale, finalement. Un aller et retour entre la philosophie, la modélisation, la vulgarisation et la mystique, l'expérience. Alors même si l'expérience mystique n'est pas reproductible à volonté, ça gêne un peu la science. Elle aime bien que les expériences soient reproductibles. Mais par exemple, celui qui étudierait les aurores boréales, il connaît les mêmes difficultés dans un sens. Il peut choisir un lieu, une époque plus favorable qu'une autre, mais ensuite il doit attendre que l'aurore boréale se produise, et puis elle sera toujours un peu différente des précédentes. Alors bien des personnes ont connu une expérience vive de Dieu. Ce n'est pas si rare, nous connaissons tous des personnes qui ont vécu quelque chose comme cela, je pense. Mais même pour les personnes qui ont donc connu une expérience vive de Dieu, souvent cette expérience est unique dans leur existence et pas reproductible tous les quatre matins. C'est souvent une expérience unique dans son intensité qui a changé pour cette personne quelque chose de fondamental, qui l'a marqué à jamais et qui lui permet, même si elle ne revit pas un moment de cette intensité, de reconnaître ensuite dans sa vie quotidienne les traces d'un contact avec Dieu. Alors pour une large proportion de la population mondiale, dans toutes les religions, toutes les cultures, l'expérience mystique est vécue d'une façon plus diffuse ou par moments qui sont peut-être discernables a posteriori, comme ce que dit Jacob quand il dit « Dieu était là et je ne le savais pas » ou comme les pèlerins d'Emmaüs qui disent a posteriori « Notre cœur ne brûlait-il pas à l'intérieur de nous-mêmes ?» Parfois, c'est en lisant peut-être un psaume, par exemple, témoignant d'une expérience de Dieu, qu'une personne qui se croit absolument pas mystique du tout va sentir comme une résonance profonde à ce témoignage d'une personne qui témoigne de son expérience mystique, une résonance personne dans une personne, dans quelqu'un d'autre qui pense ne pas du tout être mystique, qui pense n'avoir aucune expérience du contact avec Dieu. Mais s'il y a cette résonance profonde, c'est bien que cette expérience existe en lui. Et alors cette résonance, elle est un peu comme quand on fait un test pour savoir si on a eu la rubéole, par exemple, et que le test est positif. Et alors on peut dire « j'avais eu la rubéole, mais je ne le savais pas ». Et dans un sens, en lisant donc ces textes de la Bible ou en entendant quelqu'un témoignant de sa foi, en ressentant comme un écho, oui, nous pouvons dire quelque chose. J'ai eu déjà vécu quelque chose de l'ordre de cette expérience mystique. Alors bien sûr, il y a quantité aussi de fous complètement allumés qui vivent des transes et des visions, et cela peut faire peur. Mais comme le fait remarquer Bergson, il existe une quantité de fous qui se prennent pour Napoléon, mais ça n'empêche que Napoléon existe et qu'il avait bien raison de se prendre pour Napoléon. Et donc oui, il existe des folies mystiques, mais toute mystique n'est pas de la folie. Alors c'est juste, effectivement, une expérience d'exception au sens où elle nous fait toucher l'au-delà de nos limites. C'est un de ces états d'exception que nous pouvons connaître d'autres façons, par exemple, comme le sentiment d'être amoureux, ou comme peut l'être un moment de grâce en écoutant de la musique ou en regardant une peinture, si on est sensible à l'art. Cela, ces expériences, finalement, au-delà simplement du disciple, de ce que l'on peut en exprimer, peuvent néanmoins donner envie d'en témoigner imparfaitement, mais sans pouvoir non plus peut-être reproduire cette expérience, ni encore moins obliger la personne à qui l'on parle de vivre cette même expérience lui-même. Alors le psalmiste, comment il fait pour parler de son expérience de Dieu ? Il en parle d'une façon théorique, par de la philosophie, de la théologie, et il essaye ensuite d'en rendre compte, de rendre compte peut-être de son émotion, pas seulement de sa pensée, émotion de la rencontre avec Dieu, avec une image. Cette expression, elle est utile pour affiner peut-être notre expérience, peut-être pour la valider, pour être sûr que ce n'est pas justement un moment de transe mystique complètement fou, mais que ce soit une véritable expérience de Dieu. C'est donc utile de la confronter, je pense, par l'intelligence à ce que d'autres ont pensé, et puis de l'exprimer. Le psalmiste, il reconnaît dans son expérience quelque chose dont ce dont témoignaient d'autres théologiens, dont il a la trace dans la Bible. Mais en même temps, pour lui, c'est quelque chose d'infiniment plus personnel, plus impliquant. Cela touche à son existence même, peut-être. L'existence de son être, de sa valeur possible d'être aimé. Peut-être il l'exprime comme un lien unique et vital à travers cette image du bébé contre sa mère. C'est cela qui lui vient. Effectivement, pour parler de quelque chose d'indicible, il faudrait forger des mots, inventer des concepts qui n'existent pas, finalement, puisqu'ils ne sont pas de notre monde sensible. Alors voilà ce qu'il nous dit. « Je suis calme et élevé en mon être comme un bébé sevré sur sa mère. Mon être est sur moi comme un bébé sevré. » Il évoque calme, élévation, état du bébé sur sa mère. Alors, est-ce que c'est là de la théologie, de la philosophie ? Oui. Ou plutôt, cela peut fonder une théologie et une sagesse, un désir de vivre pour honorer cela, finalement. Il y a là peut-être une vision, oui, et une joie, une motivation, un souffle, peut-être, pour vivre ardemment du programme théorique qu'il a développé au milieu, celui du cœur, de la capacité à choisir par soi-même, du regard, de la visée et puis de la démarche. Mais en même temps, ce que trouve à dire le psalmiste pour rendre compte de son expérience de Dieu, c'est celui d'être comme un bébé sevré. La mère est là, tout va bien, sauf qu'il vient d'être privé du sein et du lait. Et donc c'est une expérience ambiguë, paradoxale, complexe infiniment. C'est une étape nouvelle, inconnue pour le bébé. Un saut en avant qui provoque une émotion sans doute très forte et ambiguë chez la mère et chez le bébé. Il y a quelque chose de la prière du Christ disant sur la croix à Dieu « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» et en même temps « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Il y a ce double sentiment ambigu peut-être. Quelque chose de cet attachement si fort, si puissant qui nous relie à Dieu à la source et que seule l'expérience mystique peut vraiment faire sentir. Mais aussi cette autonomie, ce détachement qu'il nous donne. Et effectivement, quand l'enfant est sevré, sa bouche est libérée du sein pour apprendre à parler. Ses mains sont libérées pour faire quelque chose et il va pouvoir avancer par lui-même dans ce monde et prendre des décisions avec son propre cœur, avoir son propre point de vue, sa visée, avoir son cheminement. Et maintenant, donc, ce n'est plus ou plus seulement sur sa mère qu'il se repose, nous dit le psaume, mais sur lui-même. Sur une double fondation, finalement. Le lien avec ce Dieu qui est une mère pour lui existe, aussi profond, mais différent peut-être, intégrant des dimensions inconnues à la fois de liberté et de confiance, de fidélité réciproque. Alors avez-vous pensé qu'aujourd'hui même vous pouvez vivre quelque chose de cette expérience de Dieu ? Israël attend vers l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. Amen. Et pour continuer cette méditation, je vous propose de chanter ensemble le cantique 315 dans notre petit recueil Louanges et prières. Donc un cantique « L'Éternel seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui » donc qui est sur les paroles du psaume 27 et qui nous propose donc là aussi de prier. Donc les strophes 1, 5 et 6 du psaume 315. Vous pouvez prendre place pour donc quelques annonces. Pendant l'été, finalement, nos activités consistent donc à au culte le dimanche matin. Et puis, il y a donc le mercredi de midi et demi à 1h30, tous les mercredis de l'été, autour d'un café, un temps de partage biblique. Nous avons choisi, donc, avec Regina, qui était au mois de juillet, et puis moi-même au mois d'août, le thème de la vocation que Dieu nous adresse, un appel donc à aller en avant. Mercredi prochain, nous aurons dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 5, l'appel des premiers disciples. Alors, je voudrais aussi, pour ce temps de culte, eh bien, remercier vraiment les paroissiens qui font le piquet à la porte pour... J'allais dire veiller un peu sur notre sécurité à tous. Et puis, bon, les équipes de policiers aussi qui passent leur dimanche matin à venir garder aussi bien Saint-Germain-l'Auxerrois à côté donc, que l'oratoire et que nous avons rencontré. Donc, oui, il y a une reconnaissance pour cette vigilance commune en cette époque un petit peu troublée. Alors, maintenant, c'est le moment de l'offrande. C'est vrai que nous recevons tout de la part de Dieu gratuitement. L'offrande est un témoignage de notre louange et de notre reconnaissance à ce Dieu qui nous donne la vie. Alors je vous invite à vous unir dans la prière en suivant du cœur cette prière d'Eti Ilsoum, qui est donc une jeune femme juive et à bien des titres chrétienne d'Amsterdam pendant la Deuxième Guerre mondiale, une époque infiniment plus troublée que celle que nous vivons bien sûr, qui a écrit un merveilleux journal, merveilleux de profondeur et de mystique. Elle écrit en juillet 42. Ce sont des temps d'effroi, mon Dieu. Cette nuit, pour la première fois, je suis restée éveillée dans le noir, les yeux brûlants, des images de souffrances humaines défilant sans arrêt devant moi. Alors je vais te promettre une chose, mon Dieu, oh, une broutille. Je me garderai de suspendre au jour présent comme autant de poids les angoisses que m'inspire l'avenir. Mais alors oui, cela me demande un certain entraînement, mais pour l'instant, à chaque jour suffit sa peine. Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi, mais je ne puis rien te garantir d'avance. Une chose cependant m'apparaît de plus en plus claire, ce n'est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t'aider, et ce faisant, nous nous aidons nous-mêmes. C'est tout ce qu'il nous est possible de sauver en cette époque, et c'est aussi la seule chose qui compte un peu de toi en nous, mon Dieu. Peut-être pourrons-nous aussi contribuer à te faire émerger dans des cœurs martyrisés, ceux des autres. Oui, mon Dieu, tu sembles assez peu capable de modifier une situation finalement indissociable de cette vie. Je ne t'en demande pas compte. C'est à toi, au contraire, de nous appeler à rendre des comptes de ce que nous avons essayé de faire. Il m'apparaît de plus en plus clairement à chaque pulsation de mon cœur que c'est à nous de t'aider et à défendre jusqu'au bout la demeure qui t'abrite en nous. Il y a des gens, le croirait-on, qui au dernier moment tâchent de mettre en lieu sûr des aspirateurs, des fourchettes et des cuillères en argent au lieu de te protéger, toi, mon Dieu, en eux-mêmes. Il y a des gens qui cherchent à protéger leur propre corps, qui pourtant n'est plus que le réceptacle de mille angoisses et de mille haines, et ils disent « Moi, je ne tomberai pas sur leurs griffes ». Ils oublient qu'on n'est jamais sous les griffes de personne tant qu'on est dans tes bras. Cette conversation avec toi, mon Dieu, commence à me redonner un peu de calme. J'en aurai beaucoup d'autres avec toi, des conversations dans un avenir proche, t'empêchant ainsi de me fuir. Et tu connaîtras sûrement des moments de disette en moi, mon Dieu, des moments où ma confiance ne te nourrira plus aussi richement. Mais crois-moi, je continuerai à travailler pour toi, et je resterai fidèle, et je ne te chasserai pas de mon enclos. Alors je ne manque pas de force pour affronter la grande souffrance, la souffrance héroïque, mon Dieu. Ce que je crains plutôt, c'est les mille petits soucis quotidiens qui vous assaillent parfois comme une vermine mordante. Alors, mon Dieu, je veux prendre soin de toi. Je ne t'offre pas seulement mes larmes et mes tristes pressentiments, je veux t'offrir toutes les fleurs que je rencontrerai sur mon chemin, et elles sont légion, crois-moi. Je veux te rendre ton séjour en moi le plus agréable possible. Et pour prendre un exemple au hasard, même si j'étais enfermé dans une étroite cellule et voyant un nuage passer au-delà de mes barreaux, ben, je t'apporterais ce nuage, mon Dieu, si du moins j'en avais la force. Alors je ne puis rien garantir d'avance, mais mes intentions sont les meilleures du monde, tu le vois, mon Dieu. Alors maintenant, je vais me consacrer à cette journée qui s'ouvre devant moi. Je veux me répandre parmi les hommes aujourd'hui, et les rumeurs mauvaises et les menaces m'assailleront comme autant de soldats ennemis devant une forteresse imprenable. Alors oui, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonne pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous recevons cette bénédiction qui vient de la part de Dieu et que ces paroles de Moïse nous proposent de porter à ceux qui nous entourent. Que l'Éternel te bénisse, toi, et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa lumière sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Oui, demeure par ta grâce avec chacune et chacun. Ô Dieu Sauveur.